9h23, notre invité ce matin est grande reporter, écrivaine également, spécialiste reconnue des questions russes. Elle nous propose son tout dernier livre, publié aux éditions Seuil, « Un continent derrière Poutine », point d'interrogation. Anne Niva est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Votre livre est fascinant pour deux raisons. D'abord, il y a tous les enjeux qui concernent la Russie, Vladimir Poutine, mais vous portez également beaucoup d'attention sur les gens, sur ceux qui vivent en Russie, ce qu'ils ont vécu avec les différents changements de régime. Pour vous, c'est important de combiner les deux?
C'est non seulement important, c'est capital. Parce qu'on a aujourd'hui une information sur la Russie qui est totalement bouchée, à mon sens, qui est obsessionnellement tournée vers une seule personnalité, qui est la personnalité de Vladimir Poutine. Alors, je veux bien que Vladimir Poutine obsède les Occidentaux que nous sommes, mais enfin, derrière Vladimir Poutine, il y a ce peuple russe qui vit sur un continent, et c'est pour ça que j'ai voulu le mot continent dans le titre de mon livre, parce qu'on sous-estime ce que ça induit dans la psyché russe, le fait de vivre sur ce continent diffuseau horaire. C'est un pays qui est quasiment ingouvernable, les Russes le savent bien, et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles ils acceptent ce qu'ils nomment eux-mêmes la verticale du pouvoir. Il y a ce côté tsariste, il y a ce côté un peu dictateur entre guillemets, ça c'est un mot que nous employons nous occidentaux, les Russes ne diraient pas que Vladimir Poutine est un dictateur, mais ils apprécient le fait que ça soit un homme fort, parce qu'il redonne à leurs yeux de la fierté au peuple russe.
J'ai séjourné 2 semaines, c'est peu là, mais quand même pour avoir une guide avec qui je parlais et qui me racontait toutes les époques, là, la chute du communisme, la période de Boris Yeltsin.
Elle a bien fait.
Et elle disait, dans le cas de Poutine, c'est qu'il vient après toutes ces périodes de turbulence où on a vu de la corruption des gens près de Yeltsin, profiter des privatisations. Il nous redonne de la fierté. Et de la stabilité, alors que on avait besoin de ça collectivement.
C'est sûrement ce qu'elle a dû vous dire, parce que ça, c'est inévitable. Et c'est quelque chose que, justement, nous, Occidentaux, comprenons mal. Nous n'avons pas la même histoire que les Russes. Et l'histoire russe est une addition de bouleversements permanents. Alors, si on remonte très loin, bon, il y a eu les tsars, les uns après les autres. C'était quand même très violent comme société. Puis, la société tsariste. Et puis, tout d'un coup, il y a la rupture avec la révolution de 1917. Une révolution sanguinaire. Une révolution qui a mené à une dictature totalitaire, la dictature soviétique, pendant plus de 7 décennies. C'est long, 7 décennies. Et puis, tout d'un coup, fin 1991, l'URSS, ce grand géant soviétique, est fini, se dissout. Alors, ça ne s'est pas passé dans le sang, mais je dirais, c'est pas pour autant que ça n'a pas été un traumatisme pour les Russes. Justement, et c'est pour ça que nous, Occidentaux, nous avons assez mal compris le bouleversement qu'a été pour les Russes et la société russe, la fin de l'URSS en 1991. Ensuite a commencé cette longue période jusqu'à aujourd'hui de post-soviétisme. Alors ça a débuté, comme vous a dit votre guide, avec Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, aujourd'hui les jeunes Russes s'en souviennent à peine, mais c'est quelqu'un qui a eu, je dirais, tout le sale boulot entre guillemets à faire. Parce que c'était compliqué de faire passer cette société d'un système communiste très
rigide,
dirigeant,
oui,
rigide, avec un parti unique, avec une absence totale de propriété privée, tout appartenait à l'État, tout d'un coup à un système pluraliste politique, un système capitaliste. D'aucuns diraient aujourd'hui que la Russie, c'est plutôt un système économique post-capitaliste, ultra-libéral, c'est-à-dire qui laisse beaucoup de monde sur le côté. Donc il y a eu des bouleversements incessants. Et Vladimir Poutine, pardon, qui est arrivé au pouvoir en 1999, parce que Boris Yeltsin l'avait décidé, c'est-à-dire c'est le prédécesseur Boris Yeltsin qui a sorti de son chapeau Vladimir Poutine à l'automne-hiver 1999, alors que ce Vladimir Poutine n'était rien ni personne, personne ne le connaissait. Il ne sortait pas, il ne s'était pas fait remarquer pour quoi que ce soit. Il avait été agent secret en Allemagne de l'Est, en Europe. Et finalement, ce Vladimir Poutine a pris de plus en plus d'indépendance. Il a beaucoup changé entre le moment où il est arrivé au pouvoir il y a 18 ans et aujourd'hui. Il a compris beaucoup de choses, notamment sur la façon dont fonctionnent les médias et comment il fallait instrumentaliser les médias. Et aujourd'hui, il est encore là et après 4 mandats. Parce qu'il a le sentiment, parce que les Russes ont le sentiment, à tort ou à raison, mais ça n'est pas à moi de le dire, qu'il leur redonne de la stabilité. Ils ont peur, les Russes ont peur de ce que serait la Russie sans Vladimir Poutine.
Il faut quand même regarder les événements de la dernière année, même des dernières années. que ce soit les tentatives de manipuler l'élection américaine,
oui.
ses rapports avec Donald Trump, avant et après l'élection, son rôle quand même très clair, comme qui s'impose de plus en plus, on le voit en Syrie, comme leader incontournable. Qu'est-ce qu'il cherche à faire de la Russie? Quel est son rôle sur la scène internationale?
N'oubliez pas la Crimée également.
La Crimée, oui.
Mais la Crimée, c'est plutôt domestique, c'est
oui.
interne. Mais ça, c'est un élément qui a donné encore plus d'ampleur, si vous voulez, à tout ce que fait Vladimir Poutine, même au niveau international. Le fait qu'il ait réussi à récupérer cette péninsule de la Crimée qui appartenait à l'Ukraine et que les Russes, que nous en Occident, nous appelons une annexion. On dit que Poutine a annexé la Crimée, mais les Russes n'appellent pas ça du tout une annexion. Même les Russes qui sont anti-Poutine ont du mal à ne pas être d'accord avec lui pour cette nécessité d'avoir récupéré la Crimée. C'est vous dire si, de ce point de vue-là, justement, il se fait respecter à l'intérieur du pays. Alors, à l'extérieur, au niveau international, eh bien, ça va ensemble. C'est-à-dire, l'intérieur rejaillit sur l'extérieur et Vladimir Poutine souhaite et fait tout pour cela, récupérer, une fois de plus à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait, la grandeur de la Russie sur la scène internationale. Et en cela, bien sûr, une majorité de la population russe le soutient. Les Russes n'ont pas du tout honte de ce que fait Vladimir Poutine.
Mais cette usine de trolls qui tente d'aller sur les médias sociaux, qui réussit même
alors,
pour
ça,
influencer donc,
oui.
un résultat d'élection.
Alors, je dirais que c'est moins important pour les Russes que les événements géopolitiques que je viens de citer, d'évoquer. C'est moins important que la Crimée, c'est moins important que ce que les militaires russes font en Syrie, etc. Les Russes le prennent avec pas mal d'humour. Ils le prennent beaucoup moins sérieusement que nous en Occident, je dirais. Tout ce que vous évoquez là, c'est on en parle beaucoup dans les médias occidentaux, on en parle beaucoup moins dans les médias russes, même les médias russes qui sont des médias indépendants. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même dans la presse écrite, même si toute la télévision et tous les médias audiovisuels sont en majorité des médias d'État et donc ils n'évoquent pas ce genre de sujet. C'est-à-dire la société russe n'est pas vraiment au courant de l'ampleur qu'a pris cette histoire de troll à l'étranger.
Mais au-delà des trolls, prenons l'exemple de financement du gendre qui, on pense en tout cas, eu recours à du financement russe.
Oui.
On pense que, autrement dit, avec différents éléments, Poutine, la Russie, exerce une forme de chantage auprès de Trump. Est-ce que vous
oui.
pensez que c'est plausible?
Ça n'est pas à moi de dire si c'est plausible ou pas, je n'ai pas enquêté là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est ce que les Russes ressentent de ce que vous venez de me dire. Et à leurs yeux, ils en rient, ils disent qu'évidemment il n'y a aucune preuve. C'est comme ce qui s'est passé à Londres avec l'empoisonnement d'un ancien espion. Lorsque ça a eu lieu il y a quelques semaines, tous les médias occidentaux, évidemment, en ont parlé. En Russie, on n'a pas cessé de dire qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, mais ce qui est le plus important pour les Russes, ce n'est pas ça. Ce qui est le plus important, c'est le résultat de tout cela. Et le résultat de tout cela, c'est qu'on parle dans le monde, pense-t-il, de Poutine avec respect et en en ayant peur. Et ils sont satisfaits de cela, parce qu'ils se disent, après l'humiliation, voilà, c'est un mot qu'il faut prononcer ce matin en face de vous, parce que c'est un mot très important pour les Russes, après les humiliations à répétition liées à tous ces bouleversements de l'histoire que nous avons évoqués quelques minutes plus tôt, les Russes ont besoin de sentir aujourd'hui que leur pays est un pays qui compte sur la scène internationale. Quel que soit finalement si c'est positif ou si c'est négatif, peu leur importe. Parce que de toute façon, leur vision n'est pas la même que la nôtre.
Est-ce que c'est vraiment son dernier mandat?
Alors, là non plus, je n'ai aucune certitude, mais j'ai des impressions, c'est le résultat de mes observations sur place. Je ne suis pas la seule observatrice à le dire. Il semblerait que Poutine, qui est quand même un être humain comme les autres, ça n'est pas un surhomme, d'abord...
Vous avez l'air de dire
d'abord
qu'il semble
vieilli,
un peu désabusé.
D'abord vieilli, et deuxièmement, oui, se lasse un peu.
Ouais.
Et ça, plusieurs signes l'ont montré à sa façon de ne pas être aussi longtemps devant les médias comme il le faisait auparavant, et de la même façon qu'il le faisait auparavant. On dirait qu'il prend un petit peu plus de distance, et qu'il serait en train de préparer sa succession. Si autre chose, si rien n'arrive avant cela, c'est-à-dire là, il a été réélu, donc en mars 2018, jusqu'en 2024. C'est long jusqu'en 2024, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, il peut réussir lui-même à trouver son successeur comme Boris Yeltsin l'a fait avec lui, auquel cas ça se fera sans doute au dernier moment et sans que personne ne réussisse véritablement à comprendre qui sera ce successeur, ou alors il peut être amené vers la porte de sortie parce que il y aurait des bouleversements dans la société russe, ce que je n'exclus pas, parce que les Russes subissent beaucoup, mais au bout d'un moment on sent que ça boue et il y a une révolte qui gronde. Et cette révolte, je la sens depuis quelques années en Russie. Il y a aujourd'hui des jeunes Russes qui ont 17 ans, 18 ans, jeunes adultes, c'est l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Ces jeunes-là, ils n'ont pas du tout le même rapport avec la politique que leurs aînés, même ceux qui ont 25 ans ou à peine 30 ans. Ils sont beaucoup plus décomplexés.
Mais est-ce que c'est possible qu'un opposant puisse vraiment, j'allais dire, justement s'imposer? Un adversaire qui meurt à quelques pas du Kremlin, un autre dont on empêche la candidature. Est-ce que vraiment, il y a une possibilité que quelqu'un de l'opposition puisse un jour accéder au pouvoir?
Pour le moment, en 2018, non. Je ne vois pas cela possible. Effectivement, Alexei Navalny, qui est un jeune juriste de 41 ans, qui est très populaire à travers Internet, qui n'a pas de parti, mais qui lutte contre la corruption, il avait voulu se présenter aux élections présidentielles de mars, et le Kremlin l'en a empêché. Si le Kremlin l'en a empêché, c'est bien parce que cet Alexei Navalny représentait une menace. Il s'était présenté aux élections municipales à Moscou, la capitale, et il avait fait plus de 20%, il était arrivé numéro 2, donc il représente une menace. Cet homme, Alexei Navalny, n'a pas dit son dernier mot, et il a énormément de followers, de gens qui le suivent jusque dans la rue, et j'évoquais ces jeunes de 17-18 ans, c'est Alexei Navalny, c'est lui-même ce jeune juriste qui a fait sortir dans la rue ces jeunes de 17-18 ans, donc le grand public les a découverts à deux reprises l'année dernière, en 2017. Donc ça risque tout à fait de se reproduire, mais ça sera quelque chose, c'est un processus qui va mûrir, qui va durer longtemps. Sinon, ça sera un processus très violent.
Anne Niva, toujours intéressant de vous recevoir et de vous écouter. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Un continent derrière Poutine, point d'interrogation, le livre de Anne Niva, publié aux éditions Seuil sur les Russes, la population, mais également sur Poutine et le système. 9h35, pause, on revient après.